Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
8h22, bonjour Alain Duhamel.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Demenac.
Bonjour.
Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous. Depuis le 26 mars, le site de la faculté de Tolbiac a ce matin été évacué. Son président en avait fait la demande à de nombreuses reprises. Il était temps, Alain Duhamel.
Oui, vous savez que on prétendait à tort ou raison que ce serait une évacuation très difficile parce qu'il s'agissait d'une tour. Apparemment, ça s'est passé sans trop de difficultés. Moi, je dirais que ce qui apparaît dans cette phase-là, dans les universités, c'est-à-dire une demande de vote électronique de l'ensemble des étudiants plutôt que des assemblées générales de 100 ou 150 militants, ça me paraît une bonne évolution, ça.
Alors, Nicolas Demenac.
C'était un peu écrit, hein. C'était écrit dans l'échec de la contagion du mouvement, échec de la contagion vers les lycées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à mobiliser les lycéens, que du côté social, il n'y a pas eu de réussite de la contagion non plus. Donc le mouvement, à part quelques essaimages dans certaines universités, n'a pas réussi à prendre vraiment, même s'il s'est passé des choses.
Vous pensez quoi, que le mouvement étudiant est un échec?
Je pense qu'il est relativement un échec. Pour autant, je ne le maîtrise pas comme le font certains éditorialistes qui parlent de traîne savate de la rébellion, hein, de carteron, d'étudiants attardés. Je trouve que cette humiliation est malvenue parce que ces gens-là, toutes les générations ont connu comme ça des rites de passage. Certains sont devenus des hommes politiques plus que respectables. Manuel Valls, il a fait ses études tourmentées aussi à Tolbiac. C'est des façons d'être dans la société aussi. Donc ne piétinons pas ces gens-là. Ils n'ont pas réussi leur aventure, hein, mais elle n'est pas pour autant totalement méprisable.
On dirait, pardonnez-moi, Alain Duhamel, mais au moment où nous parlons, on dirait que tout est évacué. C'est pas le cas du tout. Ils ont réussi à bloquer maintenant Sciences Po, dont on
verra pour combien de temps.
Avec des pancartes, excusez-moi, refusant la sélection. Oui. Donc à Sciences Po, c'est intéressant comme débat. On va faire un plan
vous.
De parti là-dessus.
Je suis d'accord avec
voilà.
vous. Voilà. Un endroit où il y a un étudiant sur 10 qui est pris et qui est contre la sélection, il y a quelque chose là, effectivement, d'un peu bizarre. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même des points de fixation qui sont quelquefois très violents, comme à Toulouse, par exemple, comme il y a eu à Montpellier.
Qui sont toujours les mêmes.
Qui sont toujours les mêmes. Là, il doit y avoir aussi des problèmes locaux à essayer d'affronter. Il y a des endroits où, d'extrême droite d'un côté ou d'extrême gauche de l'autre, ou pour d'autres raisons encore, il y a une espèce de tradition locale d'affrontement. Dans ces cas-là, il faut des présidents d'université, de bonne qualité.
Mais Alain, si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a des points de fixation, mais historiquement, parce qu'il y a une tradition de rébellion dans ces universités, mais aussi parce qu'elles correspondent à des filières qui sont toujours un peu en difficulté, si je veux dire, les sciences humaines, où les étudiants qui sont là, ils vont parce qu'il y a une passion quand même d'étudier aussi, mais parce qu'ils savent qu'ils auront du mal à trouver des boulots, bien payés ensuite de surcroît, encore plus difficile.
C'est le paradoxe complet. C'est que la réforme elle-même est un progrès. La réforme qui est proposée, c'est infiniment plus rationnel d'essayer d'orienter et d'accompagner les gens que de les tirer au sort. Comment est-ce qu'on peut raisonnablement penser le contraire ?
Et je vais un petit peu plus loin, Nicolas Demenac. Quelle logique dans le fait de bloquer des universités où ce sont justement les enfants de milieux modestes qui ont réussi à faire des efforts grâce à leurs parents qui se retrouvent à vouloir faire leurs études et passer des examens pour se projeter dans l'avenir de leur vie.
Mais c'est parce qu'il y a quand même dans ce pays un rêve, au fond, de non-sélection, mais qui se retourne en son contraire, je vous le concède. Ce qui fait que quand il n'y a pas de sélection, c'est une sélection sociale qui, à l'arrivée, fait tomber la guillotine.
En deux mots, je crois que il y a deux choses. Il y a d'une part l'égalitarisme français. Hein, on rêve tout le monde agrégé. Si quelqu'un est agrégé, tout le monde agrégé. Et le romantisme de Nicolas Demenac.
Et oui.
Qui a son rêve inassouvi.
Exactement.
Et on retrouve de débat en débat.
Une forme d'égalitarisme à la française qu'il assume. Alors, tout ça nous ramène quand même à la question initiale qui est celle du respect ou non de l'autorité de l'État. Ce matin, on a une opération policière qui a été menée visiblement avec doigté et efficacité. Il semble visiblement non plus qu'il n'y ait pas eu beaucoup de résistance de la part des jeunes étudiants qui étaient installés sur place. On l'a entendu dans les éléments que nous avons diffusé sur l'antenne d'RTL, on entend le président de la République nous parler beaucoup et avec beaucoup d'autorité justement de l'autorité de l'État. Ce matin, le ministre de l'Intérieur expliquait que partout l'État de droit serait rétabli. C'est pas du tout le cas, ni dans l'ensemble de nos facultés, ni à Notre-Dame-des-Landes. Il y a une panne ?
Non, je crois qu'il y a un décalage entre le ton et, dans certains domaines, le comportement du gouvernement, qui est de tempérament, disons, déterminé. certains diront autoritaire, et puis d'autre part le fait qu'il y a des points de fixation qui sont difficiles à gérer, parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est bien gentil de dire il faut évacuer, bien sûr qu'il faut évacuer, bien sûr que tout le monde doit pouvoir circuler, et bien sûr qu'il n'y a pas de raison d'occuper des terrains illégalement si on n'a pas effectivement un dossier et un objectif pour présenter.
Hier, sur notre antenne, même José Bové demandait aux zadistes de revenir à la table de négociation.
Mais bien sûr, mais de même que... Aujourd'hui, on est tenté de dire, alors quand est-ce que l'État se fera respecter à Notre-Dame-des-Landes ? De même, si au moment de l'évacuation, il y a malheureusement un gendarme ou un manifestant qui se fait tuer, en 24 heures, tout le monde dira quel gouvernement de brut. On le sait que c'est compliqué. L'évacuation, surtout de quelque chose comme Notre-Dame-des-Landes, qui dure depuis des années, qui est devenu un symbole à tort ou à raison, hein. C'est pas forcément un symbole positif, mais enfin c'est devenu un symbole, et évidemment, c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué et c'est pour ça qu'il faut effectivement être intraitable sur un point donc, qui est ceux qui ont l'intention ou la prétention de rester, il faut qu'ils aient un vrai projet personnel qui tienne le coup. Autrement, il n'y a pas de raison.
Ça veut donc dire quand même que d'une certaine façon, le gouvernement se laisse intimider. À ce même micro, dans ce studio la semaine dernière sur RTL, le député La France Insoumise, Alexis Corbière, nous disait « Ah bah après Chirac, matraque, maintenant c'est Macron-Baston
». Oui, mais ça, c'est de la caricature infantile, ça.
Oui, mais ce sont des slogans qui restent dans l'oreille.
Oui, mais ça, oui, l'un n'empêche pas l'autre.
Non, j'entends bien.
Ce sont des mots. On voit bien que Emmanuel Macron a réussi quelque chose quand même. Et c'était son objectif, c'est de rétablir l'autorité présidentielle, la verticalité, la détermination qui agrégerait l'opinion autour de lui. D'ailleurs, ça marche si on en croit les enquêtes d'opinion sur ce point, puisque plus de 70% lui reconnaissent une autorité alors qu'ils étaient vers 14% environ pour François Hollande précédemment. Donc il y a quand même là une démarche autoritaire qui se concrétise, qui se dessine. C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien du coup pourquoi dans Notre-Dame-des-Landes ils n'arrivent pas, mais Alain Duhamel l'a dit, il y a quand même des risques d'accident. Mais moi je dirais quand même, faites attention. Alors Alain Duhamel va dire que je suis encore trop romantique, je veux dire, parce que cette autorité a le risque aussi de l'autoritarisme. Autrement dit, s'il n'y a pas plus de respect pour les corps intermédiaires, pour les syndicats non plus, aussi, je veux dire, cette façon de foncer tout droit pour imposer ses décisions, et plus le fait que vous n'avez plus d'opposition institutionnelle quasiment, enfin je veux dire, la gauche est complètement explosée, la droite est en train de connaître cette décrépitude aussi avancée avec un Laurent Wauquiez qui n'existe quasiment pas, enfin, ou pas au niveau qu'il espérait. Donc vous avez de fait un pouvoir très fort et des poches de résistance qui se caricaturent elles-mêmes puisqu'elles n'ont pas de relais de forces politiques susceptibles d'incarner leurs idées.
Alain Duhamel, et on va conclure.
Non, ce qui me frappe, c'est qu'il y a effectivement un raidissement des oppositions. S'il y a ce raidissement des oppositions, c'est d'abord parce que dès qu'on est dans l'opposition, on se caricature. Hein. De gauche, de droite, du centre, l'opposition caricature. Bon, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a un fait nouveau qui n'existait pas, mais pas depuis un mandat présidentiel. Depuis 4 mandats présidentiels, il n'y avait plus une autorité assumée. Je dis bien assumée. Oui. Or, il y a une autorité assumée et ça perturbe. Et puis, on est dans une situation complètement nouvelle parce qu'on voit deux extrémismes opposés et rivaux, et donc qui font aussi de la surenchère les uns par rapport aux autres. Quant à la droite, moi je dirais qu'il ne faut pas mesurer la droite à Laurent Wauquiez. Je pense que la droite a un potentiel beaucoup plus important que Laurent Wauquiez, et j'ai du mal à imaginer une droite classique qui en France serait inférieure à 25%, alors que j'ai du mal à imaginer un Wauquiez qui serait même à 15%.
Non mais il faut, si je peux me permettre, juste un dernier mot, c'est qu'il faut prendre en compte un temps historique qu'on a connu autrefois, à savoir que les oppositions républicaines, la gauche comme la droite, ne se reconstitueront que sur le long terme. C'est pas dans les 6 mois ou dans 1 an, alors qu'elles ont eu cru, et Laurent Wauquiez en particulier, que par un coup de baguette magique, ils allaient revenir sur le devant
Elles ont besoin d'un quinquennat pour cicatriser.
Voilà.
Alain Duhamel, Nicolas Domenech, merci, mais je vous en prie. C'est Alain Duhamel qui a repris la liberté de reprendre la parole.
Oui, c'est vrai.
Vous savez, je suis juste. C'est pas une raison.